Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vivante Église du jour, parler du suicide pour mieux accompagner la vie, tel est le thème que je vous invite à suivre. Perdre un enfant, c'est une douleur que je n'ose imaginer. Comment traverser une telle épreuve? Comment continuer à avancer quand tout semble brisé? Pour nous aider à comprendre, je reçois Marie et Arnaud de Jauré-Guibéry. Ils vont vous partager dans ces premières minutes d'émission de Vivante Église ce témoignage bouleversant de leur fils Adrien, un jeune homme de 25 ans à haut potentiel intellectuel qui s'est donné la mort. Je recevrai en deuxième partie de ce Vivante Église Lali de l'association La Lumière de Raphaël. Elle viendra nous parler de l'association La Lumière de Raphaël qui aide des familles endeuillées ainsi que du pèlerinage prévention du suicide qui a lieu chaque année durant 5 jours, la dernière semaine d'août. Un temps fort de recueillement, un temps fort d'écoute, un temps fort d'accompagnement et d'espérance. Bonjour Marie et Arnaud, et merci d'avoir dit oui pour cette émission de Vivante Église. Vous avez perdu un fils qui s'est suicidé, il était âgé de 25 ans. Pouvez-vous nous raconter, peut-être vous, Marie,
oui,
dans un
sûr.
Premier temps, première parole, l'histoire d'Adrien?
Oui, alors en fait le 24 juillet 2018, Arnaud m'annonce qu'Adrien s'est suicidé. Dans un premier temps, on est dans un temps de sidération. Et dans ce temps de sidération, moi, je suis coupée en deux, en fait, entre ciel et terre. Terre parce que c'est impossible de réaliser, en fait, quelque chose d'aussi violent. C'est inenvisageable. Donc, le cerveau s'arrête, tout s'arrête. Et ciel parce que... on pense tout de suite que comment est-il possible que son enfant soit déjà au ciel ? Peut-être qu'il est déjà dans la paix, la joie, la tendresse du Seigneur. Voilà, donc on est un petit peu entre deux temps.
Alors, j'ai appris le décès d'Adrien de façon très violente, parce que c'est ma fille qui m'a appelé au téléphone, j'étais au bureau. Et elle était en pleurs et je m'en suis beaucoup voulu de l'avoir laissée seule face à cette annonce hyper violente. Moi, en tant que père, mon devoir, c'est de protéger mes enfants. Et déjà, avant de savoir qu'Adrien était mort, la réaction de notre dernière fille m'a beaucoup bouleversé dans ma responsabilité de père. Marie, elle a réagi différemment, elle n'a pas versé une larme et ça m'a beaucoup interrogé sur sa réaction, cette réaction très forte, mais presque montrant pas de sentiment particulier ou en tout cas pas un sentiment d'avoir été touché profondément. Et moi, au contraire, j'ai crié, j'ai hurlé, j'ai pleuré, j'étais hors de moi. Contre moi, peut-être aussi un peu contre Adrien. Pourquoi lui? Voilà, donc c'était deux réactions vraiment très différentes et que j'ai eu du mal à comprendre au début, la réaction de Marie.
Oui, en fait, on est tous touchés par la culpabilité, mais on ne réagit pas de la même manière. Et cette culpabilité, elle est terrible pour des parents qui perdent un enfant par suicide. Elle est très, très violente. Elle vous assaille nuit et jour, surtout la nuit, où là, on a beaucoup de mal à s'en sortir. Et je pense qu'il faut à la fois être conscient qu'elle ne mène nulle part, cette culpabilité. Alors moi, j'avais vu mes parents dans cette culpabilité après le décès d'un de mes frères, mais qui était décédé accidentellement. Ça m'a permis de justement... de réagir au décès d'Adrien, d'abord en voulant protéger mes enfants. Et c'est pour ça que je n'avais pas la même réaction qu'Arnaud. J'avais souffert de ne pas avoir été protégée pendant le décès de mon frère. Et puis, j'avais aussi ressenti, lors de ses funérailles, j'avais été enveloppée d'une paix et d'une joie absolument parfaite, de la tendresse du Seigneur. Donc, j'avais eu l'impression d'avoir déjà été partie un peu au ciel. C'est pour ça que j'étais entre deux... Enfin, voilà, j'avais des émotions et des attitudes qui étaient étranges pour les autres.
Voilà, et quand Marie m'a effectivement expliqué la raison de son calme et de cette retenue qu'elle avait, parce qu'elle n'a pas voulu infliger à ses enfants ce qu'elle avait reçu de ses parents quand elle avait perdu son frère, là, oui, j'ai vraiment compris. En réalité, aujourd'hui, on aime parler d'Adrien. On a besoin d'entendre son prénom, prononcer son prénom. Nous, on aime prononcer son prénom. Ça fait un bien. C'est un grand réconfort de savoir que les autres osent prononcer le nom d'Adrien, parce que c'est peut-être pas facile aussi pour les autres d'aborder ce sujet-là. Voilà. Donc.
Et merci à tous les deux, car c'est, je crois, la première fois que vous prenez la parole, que vous témoignez en couple tous les deux. Habituellement, c'est vous, Marie, qui prenez la parole. On peut aussi vous découvrir un peu sur les réseaux sociaux. Et puis vous avez aussi, on en reparlera au cours de ces émissions, vous avez écrit un livre intitulé « Après l'hiver,
vient toujours le printemps ».
Vient toujours le printemps, oui, tout à fait. Et vous témoignez un peu de ce parcours. Qu'est-ce qui fait témoigner aujourd'hui Adrien et Marie, mariée depuis 35 ans, parents de 4 enfants, 3 filles et dont Adrien, qu'est-ce qui vous fait témoigner en couple ? Marie, Adrien ?
Oui, je commence. Arnaud. Ce qui nous fait témoigner, c'est un cheminement en fait, qu'on a fait tous les deux avec Arnaud. Ce cheminement, il a pu être fait aussi grâce au livre. Parce que le fait d'écrire, c'est très thérapeutique quand on traverse une épreuve. Ça permet de remettre chaque chose à sa place dans l'ordre. Et cette écriture nous a montré en fait que quelque part, on n'avait pas assez vu, pas assez compris l'empilement des vulnérabilités d'Adrien. On ne nous a pas donné les clés aussi pour comprendre. On ne nous a pas donné les clés non plus parce qu'on est resté trop seul. Et ça, c'est vrai que des parents qui ont un enfant en souffrance restent très souvent trop seuls. Or, il faut aussi bien que le jeune soit bien accompagné, en espérant que le psychiatre accompagne aussi les parents, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas exclus de l'alliance thérapeutique, mais il faut aussi que les parents soient accompagnés eux aussi de leur côté pour pouvoir être en mesure aussi d'avoir les clés. Donc, être bien informé, connaître les ressources, etc. Donc, soit par une association comme l'UNAFAM, soit en hôpital psychiatrique, il existe un programme qui s'appelle le programme BREF. Et il existe des brefs un peu dans différents domaines. Et là, chacun est accompagné individuellement.
Vous avez parlé, Arnaud, en tant qu'époux et puis père d'Adrien, et puis on en parle d'Adrien aujourd'hui dans ce Vivante Église. Vous avez, quand vous avez appris la nouvelle, vous avez hurlé contre vous-même. Ceux qui vous écoutent, peut-être des pères qui vivent peut-être une expérience douloureuse d'un accompagnement d'un enfant, peut-être en crise et crise suicidaire. Votre parole d'homme, de père aussi, m'intéresse. Que pourriez-vous nous dire?
En fait, effectivement, ma première réaction, elle a été complètement primaire. Hein, c'est-à-dire que j'avais besoin d'extérioriser ce que je ressentais en moi, cette colère. Et puis très vite, alors il y a le sentiment de culpabilité, bien évidemment. Mais aussi, je repassais en boucle. Je me disais, mais est-ce que je me suis fâché avec Adrien? Est-ce que on a eu des... paroles qui ont pu... Est-ce que j'ai pu avoir des paroles blessantes pour Adrien ? Je me posais beaucoup ces questions-là. J'avais un travail qui me prenait énormément. J'avais des grosses responsabilités. J'étais souvent en voyage ou absent. Et je me disais, mais est-ce que j'ai pas été suffisamment proche d'Adrien ? Est-ce que j'aurais pu éviter ? En fait, j'ai beaucoup de si qui ont... Et je l'ai verbalisé par cette extériorisation assez violente. Hein, donc, voilà, c'était... Et à côté de ça, Adrien, c'était un garçon qui... J'avais beaucoup d'admiration pour Adrien, parce que c'était un enfant qui était passionné et passionnant. Donc, c'est vrai que, je ne vais pas dire que ça nous aveuglait, mais on était très fiers de notre enfant. Et je pense qu'on est certainement passé à côté de l'essentiel, probablement.
Oui, parce qu'en fait, Adrien, depuis qu'il était tout petit, était très talentueux. Et nous, on essayait de le nourrir intellectuellement. Bon, il était au potentiel intellectuel. Et en fait, il avait tellement de rêves qu'il a accomplis. Il était ingénieur de super-héros. Il a découvert un brevet qui a été vendu à l'armée américaine. Il jouait du violon dans deux orchestres. Voilà, quelqu'un de quand même de très accompli. Mais qui était en décalage, qui était un peu différent depuis sa plus petite enfance. Et vous voyez tous ces petits points, comme par exemple le fait qu'il a été harcelé au collège. Eh bien, tout ça, nous, on a toujours essayé de positiver. Le pédopsychiatre qui accompagnait Adrien disait « Oh oui, mais ça, c'est dû au haut potentiel intellectuel, c'est normal d'être décalé. » Et en fait, j'ai suivi une formation, un diplôme universitaire de père PAIR, aidance familiale en santé mentale et troubles du neurodéveloppement, l'année dernière, qui m'a permis d'avoir les clés enfin et de comprendre que oui, Adrien était décalé, mais ce n'était pas parce qu'il était au potentiel intellectuel, c'est parce qu'il avait une double exceptionnalité, HPI et autiste. Et c'est un profil à côté duquel on passe très souvent complètement à côté. Et ces personnes très brillantes qui ont des soucis, eh bien, c'est pas parce qu'elles sont brillantes, mais c'est parce qu'il y a autre chose à côté. Un trouble du spectre autistique, un TDAH, un trouble déficitaire de l'attention, tout ce qui tourne autour des troubles du neurodéveloppement ou un trouble psychique, vous voyez. Mais nous, on a toujours été exclus, ou presque, à l'exception d'une fois, de l'alliance thérapeutique. Et du coup, on ne l'a pas compris. Donc vous voyez, c'est important que des parents, des proches aidants, se fassent accompagner, parce qu'ils peuvent aussi tomber sur des personnes, des tiers, qui vont pouvoir aussi leur apporter un éclairage, des informations, des ressources, pour mieux accompagner leur enfant.
Comment avez-vous finalement traversé, survécu, et comment êtes-vous resté ensemble après une telle épreuve ? Parce qu'on sait que quand un enfant décède, hein, et par mort violente comme Adrien, par suicide, souvent les couples se séparent. Voilà, l'épreuve est telle que c'est l'éclatement du couple.
En fait, après le décès d'Adrien, après cette annonce extrêmement violente qui est inimaginable, très vite, on a été porté par notre famille, peut-être pas toutes, mais en tout cas une partie de notre famille, et beaucoup par les amis d'Adrien. Beaucoup par les amis d'Adrien qui nous ont appris plein de belles choses sur Adrien. Et ça a été d'un très très grand réconfort. Quand on a été à Toulouse pour voir Adrien pour la dernière fois, on était entouré de plein d'amis d'Adrien autour du cercueil d'Adrien. Ça a été très fort, on a prié ensemble. Il y avait des musiciens qui étaient là, parce qu'Adrien faisait partie de deux orchestres symphoniques à Toulouse, il jouait du violon. Et ça a été un moment de grâce incroyable. Et donc ça, tout de suite, ça nous a mis dans un état d'esprit d'espérance, mais on était dans la joie. On était dans la joie alors qu'on était en train d'accompagner Adrien qui montait au ciel. Et ça a été très beau. Et c'est pour ça qu'on témoigne à deux, parce que le départ d'Adrien, qui n'est plus là physiquement, en réalité, il est toujours là autrement. Il est toujours là autrement. Moi, je parle à lui tous les jours. Je parle à Adrien tous les jours. Je lui demande de l'aide tous les jours. Et il me répond. Il me donne des signes. Et on témoigne ensemble parce que le départ d'Adrien a renforcé notre amour de couple, a resserré nos liens familiaux avec nos filles. Et donc, on a cette confiance totale l'un envers l'autre pour pouvoir bien partager ce moment qu'on a traversé ensemble. On a voulu parler surtout de la belle vie d'Adrien, c'est-à-dire que on veut pas que on reste sur l'événement du suicide, qui certes est, on ne l'effacera jamais, mais ça nous fait du bien de parler de la belle vie d'Adrien, parce qu'il a eu une belle vie, il a eu 25 ans de belle vie.
Alors après l'hiver vient le printemps, c'est le livre que vous avez écrit, vous en avez parlé tout au début, vous avez même employé aussi le terme de thérapie, hein, une vraie thérapie. Pourquoi ne pas l'avoir écrit à quatre mains? Permettez-moi de vous poser la question.
Ah, c'est une bonne question. C'est pas facile parce qu'en fait on a des réactions qui sont très différentes. Et donc on a essayé. Mais on a aussi deux styles, peut-être, d'écriture qui sont différents. Et on n'y est pas arrivé. La maison d'édition, voilà, n'était pas tout à fait en phase sur cette ligne-là.
Alors, si des parents vous écoutent, hein, donc des couples, des pères, des mères qui traversent peut-être une même situation, alors des conseils, peut-être des clés, quelles seraient un petit peu les clés que vous pourriez, avec votre parole d'homme, d'époux, de père, et vous, de femme, de mère aussi, d'Adrien, que leur dire là, maintenant, à ceux qui vous écoutent et qui sont au cœur peut-être de véritables crises, et crises suicidaire ou d'un suicide et puis d'une absence avec un deuil difficile à traverser.
Je pense que ce qui nous a beaucoup aidé, je l'ai un petit peu dit, c'est très vite le fait de vouloir parler d'Adrien, que ce soit pas un sujet tabou, et on s'est très vite rendu compte que ça a libéré la parole aussi de nos amis autour de nous, de fait que on entame la discussion, qu'on parle d'Adrien, qu'on parle de son histoire, de ce que l'on a traversé, des douleurs que l'on a traversées, mais beaucoup de parler de beaucoup d'espérance. C'est sûr que notre foi nous aide énormément. C'est une chance. C'est une chance. Mais surtout de prononcer le nom d'Adrien, j'insiste vraiment, d'entendre prononcer son prénom, Adrien, nous aide et nous a beaucoup aidé à traverser cette épreuve.
En fait, on se rend compte qu'on a tendance à rester très seul, à ne pas vouloir en parler quand notre enfant, par exemple, est en souffrance, pour le protéger. Mais en restant seul aussi, on perd des chances d'avoir un accompagnement. Donc il y a des structures vers lesquelles il faut se tourner, comme l'UNAFAM, par exemple. Mais il faut aussi, en couple, par exemple, accepter, ou dans une famille, les uns et les autres ne réagissent pas de la même manière. Et quelquefois, moi par exemple, au début du décès d'Adrien, j'avais envie d'en parler avec mes filles. Mais il y en a deux qui n'étaient pas en mesure, capables de même m'écouter. Et j'ai vite compris qu'il fallait respecter leur temps. Et leur temps a duré 2 ans. Donc c'est long, 2 ans. Donc vous voyez, on est tous très différents. Et il y en a pour lesquels il y a besoin de digérer une information. Et il y a un temps pour se taire et un temps pour se parler. Mais ce que je crois de ce que j'ai vécu à travers cette épreuve, c'est que nos vulnérabilités, en fait, nous rassemblent. En parlant, on découvre que dans chaque famille, il y a des épreuves. Et que nos vulnérabilités nous rassemblent, mais en plus, elles nous permettent de nous rendre compte que Dieu est présent dans ces vulnérabilités.
Votre foi, à tous les deux, n'a pas du tout été entamée après le suicide, donc cette mort volontaire de votre fils Adrien.
Ah non, pas du tout. Non.
Non, non, c'est... Alors,
êtes-vous passé par ces différentes étapes que l'on nomme parfois aussi la colère autour de après la disparition, après le deuil?
Moi, pas du tout.
Pas du tout.
Non. Alors, Moi, si, probablement, mes toutes premières
c'est
réactions.
Votre chemin, oui.
Oui, c'est toujours dans cette violence que j'ai exprimée au début. Je me suis dit, enfin, c'est sûr que je me suis adressé à lui là-haut. Pourquoi Adrien ?
Pourquoi lui ?
Il avait, c'était un enfant qui était joyeux, qui avait tout pour réussir, qui nous remplissait de joie. Et pourquoi lui ? Donc oui, j'étais un peu en révolte quand même.
Et vous n'avez jamais été ou voulu voir peut-être ce qui vous alertait du mal-être d'Adrien,
Alors,
Marie. Une forme de déni peut-être, on ne veut pas voir.
Non, ce n'est pas qu'on ne veut pas voir. C'est qu'en tant que parent, on voit, mais on ne nous donne pas les clés pour comprendre. Un. Et deux, vous savez, des parents, ils veulent toujours positiver. Mais si on reste seul, on passe à côté.
Vous insistez beaucoup sur cette solitude. Hein.
Ouais.
Et c'est pour ça que je rends grâce aussi à tous les amis d'Adrien qui nous ont entourés. Hein. Encore une fois, on n'a pas été 5 minutes seul après le décès d'Adrien. On ne s'est jamais retrouvés, hormis pour dormir la première nuit ensemble, mais on n'a jamais été seul après le départ d'Adrien.
Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est pourquoi on n'a pas perdu la foi, pourquoi je ne me suis pas révoltée. Parce que je sais très bien que notre vie est à l'image de celle du Christ. On passe par la croix, mais la croix est suivie par la résurrection. Voilà, on sait qu'on est des citoyens des cieux en devenir.
Merci à tous les deux, Marie et Arnaud de Jauré-Guibéry. Alors, ceux qui voudraient peut-être découvrir un peu plus votre histoire, vous avez écrit un livre, Marie, qui s'intitule « Après l'hiver vient le printemps ». Voilà.
Vient toujours le printemps.
Vient toujours le printemps. J'ai du mal avec
c'était
le titre de cette...
C'était une petite phrase que m'avait donnée Adrien.
Adrien, voilà. Donc elle est importante. Redite le titre du livre.
Après l'hiver vient toujours le printemps.
Et ce printemps est bienvenu.
Exactement.
Et bienvenue. Donc, un livre à lire. Vous restez avec nous, bien sûr, dans ce Vivante Église. C'était
votre
témoignage en premier. Et on va découvrir et puis parler aussi, et c'est un point important, de l'association La Lumière de Raphaël et de ce pèlerinage qui a lieu toujours la dernière semaine du mois d'août à Lourdes avec Lali que nous allons retrouver dans quelques minutes. Et vous restez, Marie et Arnaud, bien sûr, avec nous et puis avec Adrien. À tout de suite.
Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien qu'un mot à mon père vient son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Au fond de mon cœur, oui, je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière, rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre, alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, faible en apparence, mais le ciel et sur terre ont ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui, je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière, rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre, alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité.
Nathalie Cardon.
Suite de cette émission Vivante Église, c'est une deuxième partie. Avec nous en plateau, toujours Marie et Arnaud de Jauregui Berry. On peut vous lire aussi et vous découvrir. C'est autour de vous, Lali. Bonjour Lali.
Bonjour.
Alors Lali, vous représentez l'association La Lumière de Raphaël. Vous allez nous en dire un peu plus sur cette association qui accompagne de nombreuses familles confrontées à la douleur du suicide, un engagement précieux et souvent discret. Vous êtes aussi à l'initiative d'un pèlerinage annuel qui se tient sur 5 jours, donc la dernière semaine d'août, un temps d'accompagnement, de recueillement pour tous ceux qui cherchent consolation, réconfort et qui cherche la lumière. Je vais donc vous laisser la parole quelques minutes pour que vous présentiez un petit peu l'association et le pourquoi aussi de ce pèlerinage de prévention où interviennent Marie et Arnaud de Jauregui Berry avec leur témoignage. On vous écoute et merci.
Donc la lumière de Raphaël, ça fait maintenant notre 23e pèlerinage. Au début, nous étions tout petits. Le premier pèlerinage, on était 3. Un ange gardien, moi qui suis suicidaire, et le père Éric Lestage. Donc on l'a fondé tous les deux, le père Éric et moi. Et nous, parce qu'il nous semblait important que les personnes suicidaires puissent avoir un lieu de pèlerinage en sécurité, avec un ange gardien qui leur permet cette sécurité. Et donc petit à petit, il a grossi. Et puis pour le 20e, on s'est dit c'est important de le rendre national. Parce que vraiment, le suicide touche tout le monde. Personne ne peut se dire « Ah, moi, ça ne me concernera jamais ». Ça, on ne peut jamais le dire. Malheureusement, c'est un risque de la vie. Et c'est un risque que tout le monde peut vivre un jour ou l'autre. Donc, du coup, on l'a rendu national. Là, c'est notre 3e pèlerinage national. Nous accueillons des personnes endeuillées par suicide, comme Marie et Arnaud. Nous accueillons des personnes suicidaires qui ont un ange gardien. Et des personnes qui aident des jeunes en souffrance, des jeunes ou des moins jeunes, en souffrance suicidaire.
Alors quel est l'objectif principal de ce pèlerinage sur 5 jours, Lali ?
C'est aller voir Marie. C'est vraiment se déposer dans son manteau bienveillant et se laisser envelopper par elle et pour qu'elle nous mène vers son fils.
Quels sont les retours des premiers pèlerinages et des participants à ce pèlerinage ?
Plutôt positif quand même. On nous a même demandé d'en faire deux dans l'année, mais là, on a dit non parce que c'est trop de travail. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est un temps où ils savent qu'ils peuvent être eux-mêmes. On a le droit de pleurer. On a le droit de ne pas être bien. On a le droit d'avoir des angoisses. Voilà. C'est un temps où on pose le masque que l'on porte toute l'année.
Vous avez envie de réagir, Marie et Arnaud, qui intervenaient. Voilà, Lali aussi. Vous avez fait appel à Arnaud et Marie pour leur témoignage. Vous avez dit oui.
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est important de parler, de partager, de communier ensemble.
Et c'est une première pour vous, j'insiste aussi, vous témoignez, vous intervenez en couple.
Tout à fait.
C'est une première.
Oui.
Et surtout, on est dans un espace de bienveillance. De bienveillance et de confiance totale, où, comme dit Lali, on peut être soi-même en vérité, et ça fait tellement de bien de pouvoir partager en vérité.
Et tomber le masque, comme vous le soulignez,
masque,
Lali.
Et pouvoir parler de l'épreuve qu'on traverse. On reçoit beaucoup des autres, et on donne beaucoup aussi.
Alors, cette épreuve du suicide et puis de la mort d'Adrien, vous en êtes où aujourd'hui dans cette étape du deuil ? Vous pleurez, permettez-moi, vous pleurez encore parfois, Adrien ?
Alors, ça m'arrive, en toute discrétion, j'avoue.
Vous autorisez ?
Oui, c'est beaucoup moins violent qu'avant. Non, j'ai plus cette violence, honnêtement. J'ai plus cette violence, je suis vraiment dans l'espérance. Vous savez, le jour de l'enterrement, la messe d'enterrement, d'Adrien.
Vous insistez beaucoup, elle a été importante.
Oui, les trois sœurs d'Adrien ont fait un témoignage, ont parlé, ont eu le courage de parler, et elles ont terminé par une image très belle où elles disaient que, vous savez, on est les quatre pieds d'une table, il manque un pied, et cette table, elle tient toujours debout parce qu'il y a un lien invisible avec le ciel qui maintient cette table debout. C'était très émouvant et j'ai trouvé très fort et très beau ce témoignage des sœurs d'Adrien. Donc on a un pied dans le ciel déjà, on a ce privilège-là, nous, notre famille, d'avoir un pied déjà dans le ciel.
Alors comment sensibiliser plus largement donc le grand public sur cette prévention du suicide, Lali, Marie, vous, tous les trois qui intervenez aujourd'hui dans ce Vivante Église?
Alors pour nous, ce qui est important, c'est de lever le tabou du suicide.
Qui reste encore, vous le confirmez tous les trois, le thème, le sujet du suicide reste encore tabou et honteux.
Oui, il faut en parler, bien sûr.
Oui, c'est une honte. C'est une honte, c'est compliqué de dire à quelqu'un, tu sais, je ne suis pas bien. Moi, une fois, je me suis présentée à une personne avec qui j'allais travailler, donc je me présente, je lui dis, voilà, je suis bipolaire, je suis boulimique et je suis suicidaire. Oh, elle a changé de tête quand je lui ai dit suicidaire. Bipolaire, ça allait, boulimique, ça allait, mais suicidaire, c'est pas possible.
Ah, oui.
Voilà. Donc je crois qu'il y a quand même une peur immense face à ce mot suicide.
Alors comment arriver quelque peu à décomplexer ceux qui nous entourent et qui sont effrayés, ne serait-ce que le terme de suicide, le mot en lui-même.
Il faut en parler.
Il faut en parler.
Donc
il
se faut
risquer,
informer,
oser, dépasser les peurs.
Oui, oui. Et puis il faut informer. C'est par méconnaissance en fait que les personnes je dirais, passent complètement à côté de la réalité. Il faut comprendre que la santé mentale est très importante, aussi importante que la santé du corps somatique. Vous voyez, on sait se soigner, on sait que si on a de la fièvre, on sait ce qu'il faut faire. Mais si on est en train de prendre une crise d'angoisse, ne serait-ce qu'une crise d'angoisse, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc c'est quelque chose qui s'apprend.
Vous avez appris vous-même, tous les trois, permettez-moi, Lady, Arnaud et Marie, à traverser, vous en tant que parent d'Adrien, des moments de crise d'angoisse, avant, pendant les périodes difficiles, après la mort d'Adrien
ou... Bah, avant, déjà, on ne connaissait pas grand-chose.
Non, mais après
Après, oui, c'est vrai que... Alors, des crises d'angoisse, non, j'ai jamais eu de crise très grave, honnêtement. Mais voilà, je sais ce qu'il faut faire maintenant si je commence à être, en tout cas, envahie par l'anxiété, on va dire. Hein, mais ce n'est pas très important chez moi.
Moi, je suis suicidaire Et en fait, c'est très compliqué parce que c'est un tsunami qui nous envahit complètement et qui détruit tout sur son passage quand la pulsion suicidaire est là. Donc je pense que ce qui est important, c'est de ne pas rester seule. Donc moi, c'est vrai que je vis seule, mais quand je sens que ça monte, j'ai le téléphone. Et j'appelle des amis et puis je me dis, quelqu'un va bien finir par répondre. Et tant que quelqu'un n'a pas répondu, je continue ma liste des amis. Pour vraiment ne pas rester seule dans cette angoisse, parce que je sais qu'elle va monter et qu'à la fin, c'est la mort. Et je ne veux pas aller à la mort.
Alors, il y a un numéro à connaître, oui. Bien sûr. C'est le 3114, voilà. Qui est alors, ça couvre toute la France, hein, c'est nuit et jour. La nuit, malheureusement, parfois, il y a un peu d'attente. Moi, j'ai fait de la double écoute au 3114. Et effectivement, toute personne concernée de près ou de loin, c'est-à-dire soit pas pour soi-même, mais aussi pour une personne même qu'on a croisée et qu'on ne connaît que très peu, peut appeler le 3114.
Donc 24 heures sur 24 heures, oui. 7 jours sur 7, ce sont des professionnels
qui tout à fait, oui.
Qui sont formés.
Oui, oui, ouais. Tout à fait, des psychologues ou des infirmiers en pratique avancée ou des psychiatres qui répondent.
Donc, par exemple, quelqu'un qui a des pulsions comme Lali, oui. Suicidaire ou une crise suicidaire, ou alors des aidants, des proches.
Hein, mais des proches aidants peuvent et surtout les proches aidants peuvent... Oui, parce que la psychiatrie est sectorisée et quelquefois, et même toujours, on ne sait pas où aller, à qui s'adresser. Donc c'est important de savoir dans l'urgence où aller.
Est-ce que vous avez des projets dans le futur, peut-être projets de livres et en couple? Permettez-moi de vous poser la question.
Ah non, pas du tout.
Pas de projet. Vous avez le projet d'intervenir en couple.
Non, c'est notre
comme vous
projet,
intervenez.
Notre projet est plus justement, comme Lali le disait, c'est de parler de la souffrance des troubles psychiques, de la souffrance et de faire connaître au grand public l'importance de bien accompagner les jeunes, plus spécifiquement. Les deux populations les plus touchées sont les jeunes et les personnes âgées. Mais les jeunes, bien sûr. Et donc ça, c'est tout un apprentissage. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire autour de ce sujet.
Alors, quelles sont les actions concrètes que l'association La Lumière de Raphaël propose pour soutenir ces familles endeuillées, Lali?
Alors, nous avons un site internet où vous retrouvez toutes nos conférences, en particulier la conférence de la première année du professeur Jean-Louis Terra, qui est psychiatre et qui nous a fait la gentillesse de venir faire une conférence à Lourdes, à l'hémicycle, et qui est sur notre site et on peut le voir et on peut télécharger le PowerPoint, il nous l'a donné. Donc voilà, il y a d'autres conférences sur le deuil par suicide, comment on peut le vivre. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis vous pouvez nous contacter par le site internet et puis nous avons aussi un numéro de téléphone.
Alors, dans cette émission de Vivante Église, il y a bien sûr un podcast de l'émission, une fiche avec toutes les informations, voilà, pour les auditeurs qui vous ont suivi et accompagné. Cette émission arrive à sa fin. Je vais vous demander à tous les trois, Lali, Marie et Arnaud, peut-être un mot de fin. On parlait aussi effectivement de cette épreuve qui est souvent et parfois encore un sujet tabou et une honte, l'épreuve du suicide. Et Adrien a mis fin à ses jours. Il est encore un beau jeune homme âgé de 25 ans, talentueux. Vous avez, vous, traversé cette épreuve. Merci d'avoir quelque peu témoigné. Un mot de fin, un mot peut-être d'espérance pour les auditeurs qui ont porté de l'intérêt aussi à ce sujet autour du suicide. Lali.
Alors pour moi, l'espérance, c'est de ça que l'on sait que l'on est aimé. Et cette année, le thème du pèlerinage, c'est « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Cette parole que le prophète Isaïe nous dit à chacun d'entre nous et qui nous révèle notre dignité d'être humain.
Marie.
Comme le disait Lali hier, j'aimais beaucoup ce qu'elle disait. Elle disait que c'est très important de se savoir aimer et de savoir que on peut se tourner vers ses proches, mais qu'on peut aussi s'adresser au Seigneur. Voilà. Pour moi, ça me fait beaucoup de bien d'entendre ça. Elle disait même que quand on a des envies suicidaires, il faut se rappeler de ces deux personnes à qui on peut s'adresser ici-bas et au ciel.
Alors moi, enfin, mon espérance, c'est de savoir que Adrien est enfin dans la paix, qu'il ne souffre plus parce qu'il avait des souffrances. Et puis, je rends grâce à d'être en couple avec Marie, qui est notre force. Notre force, elle a une spiritualité qui est, comment dire, plus développée que la mienne. Et elle me porte. Et c'est vrai que sans vivre cette épreuve à deux, eh bien, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui.
Vous rendez grâce.
Oui, beaucoup.
Et vous rendez grâce pour vos 35 ans de mariage.
Hein. Merci. Oui.
Et moi, c'est moi qui vous remercie. Vous avez, pour la toute première fois, osé prendre le risque de donner votre témoignage. Parole de couple, parole d'époux, parole de père aussi, parole d'épouse et parole de mère. Et puis, on n'oublie pas, on n'a pas oublié du tout, durant cette émission de Vivante Église, votre fils Adrien. Et merci infiniment, Lali, de votre passage ici. Dans nos studios à Lourdes et puis pour ce beau pèlerinage qui a lieu, donc on le rappelle donc à tous les auditeurs qui seraient confrontés de près ou de loin, touchés de près ou de loin par l'épreuve du suicide, on pense à chacun d'entre eux, voilà. Et puis n'oubliez pas, chers auditeurs, que si vous le souhaitez, vous pouvez informer autour de vous que tous les ans, la dernière semaine d'août, il y a ce pèlerinage de prévention du suicide et vous trouverez toutes les informations complémentaires dans cette émission et ce podcast de l'émission. Merci à tous les trois. Au revoir.
Merci.
Au revoir. Merci. Au revoir.